Chapitre 8. Les 100 louis de la reine, maître Fingré. Maintenant que nous avons fait renouveler connaissance à nos lecteurs avec les principaux personnages de cette histoire, maintenant que nous les avons introduits et dans la petite maison du comte d'Artois et dans le palais de Louis XVI à Versailles, nous allons les mener à cette maison de la rue Saint-Claude où la reine de France est entrée incognito et est montée avec André de Tavernet au 5e étage. Une fois la reine disparue, Madame de Lamotte, nous le savons, compta et recompta joyeusement les 100 louis qui venaient de lui choir si miraculeusement du ciel. 50 beaux doubles louis de 48 livres qui, étalés sur la pauvre table et rayonnant au reflet de la lampe, semblaient humilier par leur présence aristocratique tout ce qu'il y avait de pauvres choses dans l'humbre galetas. Après le plaisir d'avoir, Madame de Lamotte n'en connaissait pas de plus grand que faire voir. La possession n'était rien pour elle si la possession ne faisait pas naître l'envie. Il lui répugnait déjà depuis quelque temps d'avoir sa femme de chambre pour confidente de sa misère. Elle se hâta donc de la prendre pour confidente de sa fortune. Alors elle appela Dame Clotilde, demeurée dans l'antichambre, et ménageant habilement le jour de la lampe de manière que l'or resplendît sur la table, « Clotilde !» lui dit-elle. La femme de ménage fit un pas dans la chambre. « Venez ici et regardez !» ajouta Madame de Lamotte. « Oh, madame !» s'écria la vieille, en joignant les mains et en allongeant le cou. « Vous étiez inquiète de vos gages ?» dit Madame la Comtesse. « Oh, madame, jamais je n'ai dit un mot de cela, dame !» Je demandais à Madame la Comtesse quand elle pourrait me payer, et c'était bien naturel, n'ayant rien reçu depuis 3 mois. « Croyez-vous qu'il y ait là de quoi vous payer ?»« Jésus ! Madame, si j'avais ce qu'il y a là, je me trouverais riche pour toute ma vie !» Madame de Lamotte regarda la vieille en haussant les épaules avec un mouvement d'inexprimable dédain. « C'est heureux, dit-elle, que certaines gens aient souvenir du nom que je porte, tandis que ceux qui devraient s'en souvenir l'oublient. » « Et à quoi allez-vous employer tout cet argent ?» demanda Dame Clotilde. « À tout. D'abord, moi, madame, ce que je trouverais de plus important, à mon avis, ce serait de monter ma cuisine, car vous allez donner à dîner, n'est-ce pas, maintenant que vous avez de l'argent ?»« Chut, fit Madame de Lamotte, on frappe. » « Madame se trompe, dit la vieille, toujours économe de ses pas. « Mais je vous dis que si !» « Oh, je promets bien à madame. Allez voir, je n'ai rien entendu. Oui, comme tout à l'heure, vous n'aviez rien entendu non plus. Eh bien, si les deux dames étaient parties sans entrer. » Cette raison parut convaincante à Dame Clotilde qui s'achemina vers la porte. « Entendez-vous ? » s'écria Madame de Lamotte. « Ah, c'est vrai, dit la vieille. J'y vais. » Madame de Lamotte se hâta de faire glisser les 50 doubles louis de la table dans sa main, puis elle les jeta dans un tiroir, et elle murmura en repoussant le tiroir, « Voyons, Providence, encore une centaine de louis !» Et ces mots furent prononcés avec une expression de sceptique avidité qui eût fait sourire Voltaire. Pendant ce temps, la porte du palier s'ouvrait et un pas d'homme se faisait entendre dans la première pièce. Quelques mots s'échangèrent entre cet homme et Dame Clotilde sans que la comtesse pût en saisir le sens. Puis la porte se referma, les pas se perdirent dans l'escalier et la vieille rentra, une lettre à la main. « Voilà, dit-elle en donnant la lettre à la maîtresse. » La comtesse en examina attentivement l'écriture, l'enveloppe et le cachet, puis, relevant la tête, « Un domestique ?» demanda-t-elle. « Oui, madame. Quelle livrée ? Il n'en avait pas. C'était donc un grison ?»« Oui. » « Je connais ses armes, » reprit Madame de Lamotte en donnant un nouveau coup d'œil au cachet. Et puis, approchant le cachet de la lampe, « 9 gueules à macle d'or, dit-elle. Qui donc porte 9 gueules à macle d'or ?» Elle chercha un instant dans ses souvenirs, mais inutilement. « Voyons toujours la lettre, » murmura-t-elle. Et l'ayant ouverte avec soin, pour n'en point endommager le cachet, elle lut. Madame, la personne que vous avez sollicitée pourra vous voir demain au soir, si vous avez pour agréable de lui ouvrir la porte. Et c'est tout. La comtesse fit un nouvel effort de mémoire. J'ai écrit à tant de personnes, dit-elle, voyons un peu. À qui ai-je écrit? À tout le monde. Est-ce un homme? Est-ce une femme qui me répond? L'écriture ne dit rien. Insignifiante. Une véritable écriture de secrétaire. Ce style de protecteur, plat et vieux. Puis elle répéta, la personne que vous avez sollicitée. La phrase a l'intention d'être humiliante, c'est certainement une femme. Elle continua, viendra vous voir demain soir si vous avez pour agréable de lui ouvrir la porte. Une femme eût dit, vous attendra demain soir, c'est d'un homme. Et cependant, ces dames d'hier, elles sont bien venues, et pourtant, c'était de grandes dames. Pas de signature. Qui donc porte de gueule à neuf macles d'or? Oh, s'écria-t-elle, ai-je donc perdu la tête? Les Rohan, pardieu, oui, j'ai écrit à monsieur de Guéméné et à monsieur de Rohan. L'un d'eux me répond, c'est tout simple, ah, l'écusson n'est pas écartelé, la lettre est du cardinal. Ah, le cardinal de Rohan, ce galant, ce d'Arrée, cet ambitieux, il viendra voir madame de la Motte si madame de la Motte lui ouvre la porte. Bon, qu'il soit tranquille, la porte lui sera ouverte, et quand cela, demain soir. Elle se mit à rêver. Une dame de charité qui donne 100 louis peut être reçue dans un galetas. Elle peut geler sur mon carreau froid, souffrir sur mes chaises dures comme le gril de Saint-Laurent, le feu, mais un prince de l'église, un homme de boudoir, un seigneur des cœurs, non, non, il faut à la misère que visitera un pareil aumônier, il faut plus de luxe que n'en ont certains riches. Puis se retournant vers la femme de ménage qui achevait de préparer son lit, à demain, dame Clotilde, dit-elle, n'oubliez pas de me réveiller de bonne heure. Là-dessus, pour penser plus à son aise sans doute, la comtesse fit signe à la vieille de la laisser seule. Dame Clotilde raviva le feu qu'on avait enterré dans les cendres pour donner un aspect plus misérable à l'appartement, ferma la porte et se retira dans la pantille où elle couchait. Anne de Valois, au lieu de dormir, fit ses plans pendant toute la nuit. Elle prit des notes au crayon à la lueur de la veilleuse. Puis, sûre de la journée du lendemain, elle se laissa vers 3 heures du matin engourdir dans un repos dont Dame Clotilde, qui n'avait guère plus dormi qu'elle, vint, fidèle à sa recommandation, l'attirer au point du jour. Vers 8 heures, elle avait achevé sa toilette, composée d'une robe de soie élégante et d'une coiffure pleine de goût. Chaussée à la fois en grande dame et en jolie femme, la mouche sur la pommette gauche, la militaire brodée au poignet, elle envoya quérir une espèce de brouette à la place où l'on trouvait ce genre de locomotive, c'est-à-dire du pont aux choux. Elle eût préféré une chère porteur, mais il eût fallu l'aller quérir trop loin. La brouette chaise roulante, attelée d'un robuste auvergnat, reçut l'ordre de déposer madame la comtesse à la place royale, où, sous les arcades du midi, dans un ancien rez-de-chaussée d'un hôtel abandonné, logeait maître Fingret, tapissier décorateur, tenant meubles d'occasion et autres au plus juste prix pour la vente et la location. L'auvergnat brouetta rapidement la pratique de la rue Saint-Claude à la place royale. 10 minutes après sa sortie, la comtesse abordait au magasin de maître Fingret, où nous allons la trouver tout à l'heure, admirant et choisissant dans une espèce de pandémonium dont nous allons essayer de faire l'esquisse. Qu'on se figure des remises d'une longueur de 50 pieds environ, sur 30 de large, avec une hauteur de 17. Sur les murs, toutes les tapisseries du règne de Henri IV et de Louis XIII, au plafond, dissimulé par le nombre des objets suspendus, des lustres à girandoles du XVIIe siècle, heurtant les lézards empaillés, les lampes d'église et les poissons volants. Sur le sol entassé, tapis et nattes, meubles à colonnes torses, à pieds équarris, buffets de chêne sculptés, consoles Louis XV à pattes dorées, sofa couvert de damas roses ou de velours d'Utrecht, lit de repos, vaste fauteuil de cuir, comme les aimait Sully, armoire d'ébène aux panneaux en relief et aux baguettes de cuivre, table de boule là-dessus d'émaux ou de porcelaine, trictrac, toilette toute garnie, commode aux marqueteries d'instruments ou de fleurs. lits en bois de rose et chaînes, à estrade ou à baldaquin, rideaux de toutes formes, de tous dessins, de toutes étoffes, s'enchevêtrant, se confondant, se mariant ou se heurtant dans les pénombres de la remise. Des clavecins, des épinettes, des harpes, des sistres sur un guéridon, le chien de Marlborough empaillé avec des yeux d'émail, puis du linge de toute qualité, des robes pendues à côté d'habits de velours, des poignées d'acier, d'argent, de nacre, des flambeaux, des portraits d'ancêtres, des grisailles, des gravures encadrées, et toutes les imitations de Vernet, alors en vogue, de ce Vernet à qui la reine disait si gracieusement et si finement « Décidément, monsieur Vernet, il n'y a que vous en France pour faire la pluie et le beau temps ». Voici tout ce qui séduisait les yeux et par conséquent l'imagination des petites fortunes dans les magasins de Maître Fingré, place royale. Toute marchandise n'était pas neuve, l'enseigne le disait loyalement, mais qui, réunis, se faisait valoir l'une l'autre et finissait par représenter un total beaucoup plus considérable que les marchandeurs les plus dédaigneux l'eussent exigé. Madame de Lamotte, une fois admise à considérer toutes ses richesses, s'aperçut seulement alors de ce qui lui manquait rue Saint-Claude. Il lui manquait un salon pour contenir sofas, fauteuils et bergères, une salle à manger pour renfermer buffets, étagères et dressoirs, un boudoir pour renfermer les rideaux perses, les guéridons et les écrans. Et puis enfin, ce qui lui manquait, eût-elle salon, salle à manger et boudoir, c'était l'argent pour avoir les meubles à mettre dans ce nouvel appartement. Mais avec les tapissiers de Paris, il y a eu des transactions faciles dans toutes les époques, et nous n'avons jamais entendu dire qu'une jolie et jeune femme soit morte sur le seuil d'une porte qu'elle n'ait pas pu se faire ouvrir. À Paris, ce qu'on n'achète point, on le loue. Et ce sont les locataires en garni qui ont mis en circulation le proverbe « voir, c'est à voir ». Madame de Lamotte, dans l'espérance d'une location possible, après avoir pris des mesures, avisa un certain meuble de soie jaune bouton d'or qui lui plut au premier coup d'œil. Elle était brune. Mais jamais ce meuble, composé de 10 pièces, ne tiendrait au 5e étage de la rue Saint-Claude. Pour tout arranger, il fallait prendre à loyer le 4e étage, composé d'une antichambre, d'une salle à manger, d'un petit salon et d'une chambre à coucher, de telle sorte que l'on recevrait au 4e étage les aumônes des cardinaux et au 5e celles des bureaux de charité, c'est-à-dire dans le luxe les aumônes des gens qui font la charité par ostentation et dans la misère les offrandes de ces gens à préjugés qui n'aiment point à donner à ceux qui n'ont pas besoin de recevoir. La comtesse, ayant ainsi pris son parti, tourna les yeux du côté obscur de la remise, c'est-à-dire du côté où les richesses se présentaient les plus splendides, côté des cristaux, des dorures et des glaces. Elle vit, le bonnet à la main, l'air impatient et le sourire un peu goguenard, une figure de bourgeois parisien qui faisait tourner une clé dans les deux index de ses deux mains, soudés l'un à l'autre par les deux ongles. Ce digne inspecteur des marchandises d'occasion n'était autre que Maître Fingré, à qui ses commis avaient annoncé la visite d'une belle dame venue en brouette. On pouvait voir dans la cour les mêmes commis, vêtus courts et étroits, de bure et de camelot, leurs petits mollets à l'air sous des bas quelque peu riants. Ils s'occupaient à restaurer avec les plus vieux meubles, les moins vieux, et pour tout dire, à éventrer sofas, fauteuils et carreaux antiques, pour en tirer le crin et la plume qui devaient servir à rembourrer leurs successeurs. L'un cardait le crin, le mélangeait généreusement d'étoupe et embourrait un nouveau meuble. L'autre lessivait des bons fauteuils. Le troisième repassait des étoffes nettoyées avec des savons aromatiques. Et l'on composait de ces vieux ingrédients les meubles d'occasion si beaux que Madame de Lamotte admirait en ce moment. Monsieur Fingré, s'apercevant que sa pratique pouvait voir les opérations de ses commis et comprendre moins favorablement l'occasion qu'il n'était qu'expédient à ses intérêts, ferma une porte vitrée donnant sur la cour de crainte que la poussière n'aveuglât madame. Sur ce, madame, il s'arrêta. C'était une interrogation. Madame la comtesse de Lamotte-Valois, répliqua nonchalamment Jeanne. On vit alors sur ce titre bien sonnant Monsieur Fingret disjoindre ses ongles, mettre sa clef dans sa poche et se rapprocher. « Oh, dit-il, il n'y a rien ici de ce qui convient à madame. J'ai du neuf, j'ai du beau, j'ai du magnifique. Il ne faudrait pas que madame la comtesse se figurât, parce qu'elle est à la place royale, que la mission Fingret n'a pas d'aussi beaux meubles que le tapissier du roi. Laissez tout cela, madame, s'il vous plaît. Voyons, dans l'autre magasin. » Jeanne rougit. Tout ce qu'elle avait vu lui paraissait fort beau, si beau qu'elle n'espérait même pas pouvoir l'acquérir. Flattée sans doute d'être si favorablement jugée par M. Fingret, elle ne pouvait s'empêcher de craindre qu'il ne la jugeât trop bien. Elle maudit son orgueil et regretta de ne s'être pas annoncée simple bourgeoise. Mais de tout vice, un esprit habile se tire avec avantage. « Pas de neuf, monsieur, dit-elle, je n'en veux pas. » Madame a sans doute quelques appartements d'amis à meubler. Vous l'avez dit, monsieur, un appartement d'amis. Oh, vous comprenez que pour un appartement d'amis, à merveille, que madame choisisse, répliqua Fingret, rusé comme un marchand de Paris, lequel ne met pas d'amour-propre à vendre du neuf plutôt que du vieux, s'il peut gagner autant sur l'un que sur l'autre. Ce petit meuble bouton d'or, par exemple, demanda la comtesse. « Oh, mais c'est peu de choses, madame, il n'y a que 10 pièces. »« La chambre est médiocre, » repartit la comtesse. « Il est tout neuf, comme peut le voir madame. »« Neuf pour de l'occasion, sans doute, » fit M. Fingret en riant, « mais enfin, tel qu'il est, il vaut 800 livres. » Ce prix fit tressaillir la comtesse. « Comment avouer que l'héritière des Valois se contentait d'un meuble d'occasion, mais ne pouvait le payer 800 livres ?» Elle prit le parti de la mauvaise humeur. « Mais, s'écria-t-elle, on ne vous parle pas d'acheter, monsieur. Prenez-vous que j'aille acheter ces vieilleries. Il ne s'agit que de louer, et encore. » Fingret fit la grimace, car insensiblement, la pratique perdait de sa valeur. Ce n'était plus ni un meuble neuf, ni même un meuble d'occasion à vendre, mais une location. « Vous désireriez tout ce meuble bouton d'or, dit-il. Est-ce pour un an ?»« Non, c'est pour un mois. J'ai un provincial à meubler. »« Ce sera 100 livres par mois, » dit Maître Fingret. « Vous plaisantez, je suppose, monsieur, car à ce compte, au bout de 8 mois, mon meuble serait à moi. »« D'accord, madame la comtesse. Eh bien, alors ?» « Eh bien, alors, madame, s'il était à vous, il ne serait plus à moi, et par conséquent, je n'aurais pas à m'occuper de le faire restaurer, rafraîchir, toute chose qui coûte. » Madame de la Motte réfléchit. « 100 livres par mois, se dit-elle, c'est beaucoup, mais il faut raisonner. Ou ce sera trop cher dans un mois, et alors je rends les meubles en laissant une grande opinion au tapissier, ou dans un mois, je puis commander un meuble neuf. » Je comptais employer 500 à 600 livres, faisons les choses en grand, dépensons 100 écus. Je garde, dit-elle, tout ce meuble bouton d'or pour un salon, avec tous les rideaux pareils. Oui, madame. Et les tapis, les voici. Que me donnerez-vous pour une autre chambre? Ces banquettes vertes, ce corps d'armoire en chêne, cette table à pied tordu, ces rideaux verts en damas. Bien, et pour une chambre à coucher? Un lit large et beau, un coucher excellent, une courte pointe de velours brodée rose et argent, rideau bleu, garniture de cheminée un peu gothique, mais d'une riche dorure. Toilette, dont les dentelles sont de maligne, regardez-les, madame. Commode d'une marqueterie délicate, chiffonnier pareil, sofa de tapisserie, chaise pareille, feu élégant qui vient de la chambre à coucher de madame de Pompadour à Choisy. Tout cela pour quel prix? 1 mois? Oui. 400 livres. « Voyons, monsieur Fingret, ne me prenez pas pour une grisette, je vous prie. On n'éblouit pas les gens de ma qualité avec des drapeaux. Voulez-vous réfléchir, s'il vous plaît, que 400 livres par mois valent 4 800 livres par an et que pour ce prix, j'aurai un hôtel tout meublé ?» Maître Fingret se gratta l'oreille. « Vous me dégoûtez de la place royale, » continua la comtesse. « J'en serai au désespoir, madame. » prouvez-le, je ne veux donner que 100 écus de tout ce mobilier. Jeanne prononça ces mots avec une telle autorité que le marchand songea de nouveau à l'avenir. Soit, dit-il, madame, et à une condition, maître Fingret. Laquelle, madame? C'est que tout sera posé, arrangé, dans l'appartement que je vous indiquerai, d'ici à 3 heures de l'après-midi. Il est 10 heures, madame. Réfléchissez-y, 10 heures sonnent. Est-ce ou non? Où faut-il aller, madame? Rue Saint-Claude, au Marais. À 2 pas, précisément. Le tapissier ouvrit la porte de la cour et se mit à crier « Sylvain, Landry, Rémy !» 3 des apprentis accoururent, enchantés d'avoir un prétexte pour interrompre leur ouvrage, un prétexte pour voir la belle dame. « Les civières, messieurs, les chariots à bras. Rémy, vous allez charger ce meuble bouton d'or. Sylvain, l'antichambre dans le chariot, tandis que vous, Landry, qui êtes soigneux, vous aurez la chambre à coucher. » relevons la note, madame, et s'il vous plaît, je signerai le reçu. Voici 6 doubles louis, dit la comtesse, plus 1 louis simple, rendez-moi. Voici 2 écus de 6 livres, madame, desquels je donnerai l'un à ces messieurs, si la besogne est bien faite, répondit la comtesse, et ayant donné son adresse, elle regagna la brouette. 1 heure après, le logement du 4e était loué pour elle, et 2 heures ne s'étaient pas écoulées que déjà le salon, l'antichambre et la salle à coucher se meublaient et se tapissaient simultanément. L'écu de 6 livres fut gagné par messieurs Landry, Rémy et Sylvain à 10 minutes près. Le logement, ainsi transformé, les vitres nettoyées, les cheminées garnies de feu, Jeanne se mit à sa toilette et savoura le bonheur 2 heures, le bonheur de fouler un bon tapis, autour de soi la répercussion d'une atmosphère chaude sur des murailles ouatées et de respirer le parfum de quelques giroflées qui baignaient avec joie leurs tiges dans des vases du Japon, leurs têtes dans la tiède vapeur de l'appartement. Maître Fingret n'avait pas oublié les bras dorés qui portent les bougies, aux 2 côtés des glaces, les lustres à girandoles de verre qui, sous les feux des cires, cirisent de toutes les nuances de l'arc-en-ciel. Feu, fleurs, cire, roses parfumées, Jeanne employa tout à l'embellissement du paradis qu'elle destinait à son éminence. Elle donna même ses soins à ce que la porte de la chambre à coucher, coquettement entr'ouverte, laissât voir un beau feu doux et rouge, au reflet duquel reluisaient les pieds des fauteuils, le bois du lit et les chenets de Madame de Pompadour, tête de chimère sur lesquelles avait posé le pied charmant de la marquise. Cette coquetterie de Jeanne ne se bornait pas là. Si le feu relevait l'intérieur de cette chambre mystérieuse, si les parfums décelaient la femme décelait une race, une beauté, un esprit, un goût digne d'une éminence. Jeanne mit dans sa toilette une recherche dont monsieur de Lamotte, son mari absent, lui eut demandé compte. La femme fut digne de l'appartement et du mobilier loué par maître Fingret. Après un repas qu'elle fit léger, afin d'avoir toute sa présence d'esprit et de conserver sa pâleur élégante, Jeanne s'ensevelit dans un grand fauteuil à bergerie, près de son feu, dans sa chambre à coucher. Un livre à la main, une mule sur un tabouret, elle attendit, écoutant à la fois et les tintements du balancier de la pendule et les bruits lointains des voitures qui troublaient rarement la tranquillité du désert du Marais. Elle attendit. L'horloge sonna 9 heures, 10 heures et 11 heures. Personne ne vint, soit en voiture, soit à pied. 11 heures, c'est pourtant l'heure des prélats galants qui ont aiguisé leur charité dans un souper du faubourg et qui, n'ayant que 20 tours de roue à faire pour entrer rue Saint-Claude, s'applaudissent d'être humains, philanthropes et religieux à si bon compte. Minuit sonna lugubrement aux filles du calvaire. Ni prélats, ni voiture. Les bougies commençaient à pâlir, quelques-unes envahissaient en nappes diaphanes leurs patères de cuivre doré. Le feu, renouvelé avec des soupirs, s'était transformé en braise, puis en cendre. Il faisait une chaleur africaine dans les 2 chambres. La vieille servante, qui s'était préparée, grommelait en regrettant son bonnet à ruban prétentieux, dont les nœuds, s'inclinant avec sa tête quand elle s'endormait devant sa bougie dans l'antichambre, ne se relevait pas intacte, soit des baisers de la flamme, soit des outrages de la cire liquide. À minuit et demi, Jeanne se leva, toute furieuse de son fauteuil qu'elle avait plus de 100 fois dans la soirée quitté pour ouvrir la fenêtre et plonger son regard dans les profondeurs de la rue. Le quartier était calme comme avant la création du monde. Elle se fit déshabiller, refusa de souper, congédia la vieille, dont les questions commençaient à l'importuner. Et seule, au milieu de ses tentures de soie, sous ses beaux rideaux, dans son excellent lit, elle ne dormit pas mieux que la veille, car la veille, son insouciance était plus heureuse, elle naissait de l'espoir. Cependant, à force de se retourner, de se crisper, de se raidir contre le mauvais sort, Jeanne trouva une excuse au cardinal. D'abord celle-ci, qu'il était cardinal, grand aumônier, qu'il avait 1000 affaires inquiétantes et par conséquent plus importantes qu'une visite rue Saint-Claude. Puis cette autre excuse, il ne connaît pas cette petite comtesse de Valois. Excuse bien consolante pour Jeanne. Oh, certes, ne fut pas consolée si monsieur de Rohan eût manqué de parole après une première visite. Cette raison que se donnait Jeanne à elle-même avait besoin d'une épreuve pour paraître tout à fait bonne. Jeanne n'y tint pas, elle sauta au bas du lit, toute blanche qu'elle était dans son peignoir, et alluma les bougies à la veilleuse. Elle se regarda longtemps dans la glace. Après l'examen, elle sourit, souffla les bougies et se recoucha. L'excuse était bonne.